Vous écoutez
RMC.
6h30 tout pile sur RMC. RMC Story, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une nouvelle attaque informatique de grande ampleur qui touche la France. Cette fois, c'est l'hôpital de Versailles qui en est la cible et 6 patients déjà transférés. Le début des débats ce lundi au procès des attentats de Bruxelles. Et France-Angleterre en quart de finale du Mondial, ce sera samedi. Les Anglais qualifiés en battant le Sénégal hier soir 3-0.
Des pirates informatiques s'en prennent encore à la France.
Et cette fois donc, c'est le centre hospitalier de Versailles qui est la cible. 2 hôpitaux plus une maison de retraite attaquée dans la nuit de samedi à dimanche. Cellule de crise ouverte, plan blanc déclenché, déjà 6 transferts de patients. Le ministre de la Santé sur place hier soir et donc l'activité au ralenti, ce que nous explique Alexandra Sirgan pour RMC.
Pour éviter la propagation du virus, tous les ordinateurs de l'hôpital ont été éteints. Alors depuis samedi soir, les soignants travaillent sans outils informatiques, explique Richard Delepierre, maire du Chenet-Roquencourt.
Vous oubliez les mails, vous oubliez Internet, et vous communiquez à l'ancienne en papier crayon. Donc les équipes sont là, la plupart des équipements de soins fonctionne, mais la communication se fait à l'ancienne et donc il faut multiplier les effectifs pour prévenir qui le chirurgien, qui le labo, etc. des infos qui circulaient avant en réseau très rapidement.
Cette attaque rappelle celle de l'hôpital de Corbeil-Essonnes cet été. Pourtant, des logiciels de sécurité existent, mais les hôpitaux manquent de moyens. Nicolas Arpagian est spécialiste en cybersécurité.
Pour l'instant, les établissements publics font face à des difficultés budgétaires. Les métiers de la cybersécurité sont en tension. Bon, le gouvernement a annoncé des coups de pouce budgétaires pour hausser le niveau de protection. Bon, c'est très bien, mais c'est vrai que voilà, après maintenant, il faut passer à la phase de déploiement de ces outils de cybersécurité.
Une enveloppe de 30 millions d'euros doit être débloquée l'année prochaine.
Nicolas Sarkozy, de retour devant la justice. Aujourd'hui, l'ancien président va être rejugé pour l'affaire des écoutes. Il avait été condamné à 3 ans de prison, dont un enferme l'année dernière, soupçonné d'avoir cherché à soudoyer le juge Azibert en lui promettant un poste à Monaco. C'est aujourd'hui que les débats vont commencer au procès des attentats de Bruxelles. C'était il y a 5 ans, 32 morts à l'aéroport dans le métro. Salah Abdeslam, qui fait partie des 9 accusés à ce procès, c'était 4 mois après les attentats du 13 novembre à Paris, comme nous le rappelle Marion Dubreuil et Rémi Inc pour RMC.
Le 22 mars vers 8h, Philippe Van Stenkist venait tout juste de déposer ses enfants à l'école.
Et là, on me disait qu'il y avait une explosion à l'aéroport de Zaventem, alors que ma sœur travaillait sur place. Je suis figé et je sens que ma sœur est passée. Qu'est-ce qui est fini ? Ma sœur était pas uniquement ma sœur, c'était aussi ma meilleure amie. Une humanité et un cœur énorme. Il faut que justice soit faite.
Déjà un millier de parties civiles se sont constituées face aux 9 accusés, dont plusieurs ont déjà été condamnés à Paris pour les attentats du 13 novembre, comme le rappelle Maître Guillaume Lys, avocat de l'association de victimes V Europe.
Ici, on va reprendre la suite temporelle avec la plupart des mêmes acteurs. La question qui reste, c'est de savoir s'ils vont faire le choix de se retrancher dans un certain silence ou plutôt de venir de manière peut-être un peu plus libérée en répondant enfin à toutes ces questions que les victimes peuvent se poser depuis 6 ans.
Pourquoi 2 accusés ont-ils renoncé à se faire exploser ? Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, qui a abandonné son chariot d'explosifs à l'aéroport de Zaventem, et Osama Krayem, qui s'est engouffré dans le métro avec un gilet explosif avant de faire demi-tour.
La réforme des retraites est indispensable. Voilà ce qu'a martelé le gouvernement tout le week-end, décidé à aller au bout malgré l'opposition des syndicats qui vont se réunir aujourd'hui pour préparer la riposte. Après les textes budgétaires, place aux énergies renouvelables. À partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés vont s'attaquer à un projet de loi visant à faciliter le déploiement des éoliennes en France, en pleine crise de l'énergie. Cyprien Pezeri, l'idée, c'est que ça aille beaucoup plus vite.
Installer plus facilement des éoliennes et poser plus de panneaux solaires. Voilà les intentions de ce projet de loi, alors que la France est encore trop dépendante des énergies fossiles. À peine 19% de l'électricité produite vient du renouvelable, alors que l'objectif est de 23%. Pour rattraper ce retard, le projet, très technique, prévoit de supprimer des lourdeurs administratives pour diviser par 2 le délai de déploiement. Et la bataille s'annonce serrée. Les macronistes n'ont pas la majorité absolue. Ils doivent donc composer. La droite de l'hémicycle votera sans doute contre. Entre le RN, fermement opposé au déploiement des éoliennes, et les Républicains qui eux veulent un droit de veto pour les maires quant à leur installation. Alors pour la première fois, le parti présidentiel compte sur la gauche. Les socialistes sont prêts à dire oui, moyennant des précautions pour éviter les installations anarchiques de panneaux solaires. Quant aux écologistes, ils expliquent déjà en coulisses qu'ils ne voteront pas contre.
Je vous donne les deux informations politiques du week-end. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui devient le premier conseiller départemental RN dans les Pyrénées-Orientales, élu dans un scrutin marqué par la très forte abstention ce week-end, seulement 23% de participation. Et un match Ciotti-Retailleau au second tour de l'élection du président des Républicains, ce sera le week-end prochain. Les 91 militants LR ont placé Éric Ciotti en tête à 42% devant Bruno Retailleau à 34%.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Et on retient cette image de Kylian Mbappé qui saute dans les bras d'Olivier Giroud. Image à la une de quasiment toute la presse ce matin. C'était hier, lors de la victoire des Bleus en huitième de finale. 3-1 contre la Pologne. Doublé de Kylian Mbappé. 52e but en bleu pour Olivier Giroud qui bat le record de Thierry Henry. Ce match va servir de bascule. C'est ce que dit Didier Deschamps. Et les Bleus qui sont sereins, nous dit Adrien Rabiot.
Plus les matchs avancent, bon, excepté la Tunisie, mais c'est un match entre parenthèses. Bon, je trouve qu'on a plutôt été bon collectivement. On a dégagé cette force et encore ce soir sur pratiquement la totalité du match dans tous les secteurs de jeu. Donc, c'est de bon augure pour la suite.
Alors la suite, ce sera l'Angleterre, facile vainqueur du Sénégal 3-0 hier soir. L'Angleterre qui met en garde les Bleus. Écoutez le milieu de terrain anglais, Declan Rice.
C'est le genre de match que l'on a envie de jouer. C'est très rare d'avoir un France-Angleterre en quart de finale. On ne peut pas faire mieux. On a 6 jours pour se préparer. Le monde entier sera devant le match. Mais nous, on va tout faire pour passer au prochain tour. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je pense qu'on nous sous-estime beaucoup. Regardez nos performances. Les autres équipes doivent commencer à nous craindre. Nous avons une superbe équipe.
Alors en rugby, on appelle ça le crunch. C'est la première fois que la France et l'Angleterre vont s'affronter dans un match à élimination directe. Le rendez-vous donc sur RMC sera samedi prochain. Samedi à 20h. Les huitièmes de finale vont continuer ce soir avec deux équipes asiatiques, le Japon contre la Croatie à 16h et la Corée du Sud contre le Brésil, ce sera à 20h. Neymar lui fera certainement son retour, il s'est entraîné ces derniers jours et les nouvelles sont rassurantes. Enfin, je vous donne un résultat de rugby. Hier soir, la claque pour Toulon qui a perdu à domicile 31-14 contre le Racing. Racing qui remonte à la deuxième place du classement. Le top 14 va faire une pause là pendant les deux prochaines semaines pendant la Coupe d'Europe.
Et puis le Quintet, Quentin, c'est à Vincennes.
Début d'après-midi, 13h50, RMC Découverte. Le 2, le 9, les pronostics ce matin de la Dream Team des courses RMC. Le 2 en favori Falcon d'Espace, le 9 en outsider, fameux Saxe.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 6h36 sur RMC et c'est déjà Noël. Bah oui, c'est déjà Noël sur RMC parce qu'à l'occasion des fêtes, on vous offre de nombreux cadeaux. C'est le grand retour du coffre. Le coffre RMC, vous connaissez le principe, il faut s'inscrire pour participer au tirage au sort. C'est 75 centimes par texto, il en faudra 3. Vous envoyez coffre au 7-32-16. Il y aura un gagnant tout à l'heure à 8h20 avec un joli cadeau high-tech pour toute la famille. Et après, bah, c'est vous qui décidez si vous êtes joueur ou pas. Et si vous remettez en jeu votre cadeau pour ouvrir le coffre à l'intérieur, il y a une PS5 ou une PlayStation classique mini. Bonne chance à tous.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Il y a un peu de gala dans toutes nos têtes ce matin. Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale dans la Coupe du Monde. Les Anglais aussi. Ils seront nos prochains adversaires. Venez au 32-16 nous raconter votre match. Est-ce qu'on doit redouter les Anglais? On vous attend avec Charles, avec Manu, avec Nicolas. Tout de suite sur RMC.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, on débute la semaine avec notre rendez-vous fait divers. Une histoire repérée et racontée par le service police-justice d'RMC. Ce matin, Lucille Pascanet, on revient sur le commerce d'animaux, d'un trafic d'animaux sauvages d'une femme originaire de Toulouse.
Oui, cette jeune femme a 22 ans, elle se faisait appeler la reine de la jungle sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, des dizaines de photos de cervales, de singes tamarins, mais aussi un renard gris par exemple, qu'elle décrit en légende comme disponible à la vente, ou des bébés chouettes pucés avec tous les papiers selon elle. Tous sont des animaux protégés dont la vente est interdite en France. La vendeuse vient d'être interpellée par les gendarmes après un an d'enquête. Elle a été placée en détention provisoire pour sa participation à un trafic international d'animaux en bande organisée. Selon nos confrères du Parisien, c'est après avoir remarqué le goût des influenceurs pour les bêtes sauvages que cette jeune femme, qui est passionnée par les animaux, aurait passé le pas. En un peu plus d'un an, elle aurait vendu des dizaines de bêtes pour un montant estimé à plusieurs milliers d'euros. La jeune femme s'était rapprochée d'éleveurs frauduleux spécialisés dans les animaux exotiques qui étaient basés en Espagne. À chaque vente, elle faisait elle-même le trajet pour ramener l'animal à son nouveau propriétaire. La semaine dernière, 3 de ses clients ont été interpellés. Plusieurs animaux exotiques, par exemple des singes, des perroquets, ont été saisis dans leur domicile. Tous ont été pris en charge par les services vétérinaires. Leurs propriétaires seront, eux, convoqués plus tard par le procureur en vue d'une mise en examen.
Le récit de Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, excellent réveil à vous tous.
RMC, Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Et ça y est, on y croit, on commence bien à y croire. Et ce sera donc l'Angleterre samedi. Les Bleus qui affronteront les Anglais samedi à 20h en quart de finale de la Coupe du Monde. France-Angleterre, c'est plutôt une affiche de rugby en temps normal. On appelle ça le crunch, une grosse rivalité, une belle affiche. Finalement, en tout cas, ça fait envie à ses supporters interrogés hier soir à Doha, au Qatar. Écoutez.
Ça sera un match un peu plus dur. Ça sera peut-être une finale avant l'heure. Mais faut pas avoir peur avec ce qu'on a vu là. On est sérieux et je pense que ça peut le faire.
On a peur de rien. On peut pas se cacher.
Les Anglais, dès qu'il y a de l'opposition, c'est des trouillomètres. Le trouillomètre, il est à zéro.
Et les Anglais, leur étoile, elle est très poussiérée, alors que la nôtre, elle est très brillante.
Ils sont prenables. Ils ont des bons joueurs, une bonne équipe. Mais bon, la France, ça reste les champions du monde. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose.
Ça sera assez facile. La défense est vraiment plus nulle que la nôtre. Ça devrait le faire.
Plus grosse équipe, plus gros match, plus d'enjeux. Et ça nous aidera pour la suite.
Notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes.
Notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes, et ce sera très facile. Non, moi, je crois pas que ce sera très facile.
Pas facile, mais on est
favoris. Charles, depuis ce matin, il est arrivé dans le studio, il a dit non, c'est bon, ça passe.
Non, mais il faut assumer. Enfin, on a le droit d'être favoris. On est meilleur qu'eux. On a plus des joueurs qui ont plus d'expérience.
En fait, on est plus créatifs.
On a plus de talent.
C'était discipliné, hein, hier, les Anglais. Faut le dire. C'était discipliné, non, mais
c'était pas talent. Ils sont bons en contre. Non, en défense, ils ont pris l'eau plusieurs fois. Oui. Si les Sénégalais avaient pas été aussi un peu friables en défense,
friables.
Ah oui, ils étaient friables pour être aimables.
Non, les Anglais, je les ai trouvés incroyablement.
Moi aussi, je les ai trouvés très bons.
Parce que les Sénégalais ont été naïfs en défense.
Et oui. Et nous, on n'a pas été naïfs juste avant de marquer.
Moi je suis assez comme Nicolas, je fais partie de ceux qui sont assez, voilà, j'y crois, mais je me dis ça va être difficile.
Excusez-moi, si on peut pas s'enflammer ce matin, on peut jamais s'enflammer.
On s'enflamme grave, il fallait voir.
On domine tout le monde. Parlons plutôt de l'Espagne, du Portugal.
Ça fait plaisir. Rally est avec nous de Montauban. Bonjour Rally.
Bonjour Aurélie, bonjour à toute l'équipe.
Comment ça va Rally? Alors confiant?
Super, en tout cas, confiant, oui. Moi je l'avais prédit, j'ai eu Charles Magnin il y a pas longtemps. On s'était dit, je vous l'avais dit, qu'ils allaient aller au bout. On va y aller au bout, parce qu'on a une équipe incroyable. Le trio offensif, il est dévastatrice. Là, tout le monde va nous craindre. Les Anglais, là, ils sont en train de se dire, mais comment on va arrêter Mbappé, comment on va arrêter Dembélé, Giroud? On est sur un nuage. Et on est monté en puissance dès le début de la compétition. Même si on a un petit trou d'air contre la Tunisie, on a fait tourner. Mais là, je vous dis, on va aller au bout. On va aller décrocher cette étoile. Il faut la décrocher.
Il faut la décrocher. Et là, franchement, on serait carrément dans tous les records possibles et imaginables. Rally, restez avec nous. On va aussi en parler avec
vous. Il y a un pays qui a gagné deux fois de suite. Hein. C'est le Brésil.
Oui, un seul. Exactement. Jean-Jacques est avec nous aussi du Gard. Bonjour Jean-Jacques.
Ouais, salut l'équipe. Salut tout le monde.
Ça va alors?
Alors,
plutôt Charles et son euphorie ou plutôt Nicolas et sa prudence?
Alors, je suis Charles pour l'euphorie et pas trop de... Puis on va pas être suffisant, quoi. Je veux dire, j'ai eu la chance de voir pas tous les matchs, mais une grande partie.
Ouais.
Après les matchs de qualif, on était l'équipe qui était dans le dernier carré, sans problème. Mmh. Et là, les Anglais... Alors, les Anglais, si on pouvait leur mettre la misère comme au rugby, ce serait un grand chose.
Ce serait un grand plaisir. J'avoue que ce serait un grand plaisir.
Deux fois dans l'année, ça serait parfait.
C'est vraiment l'équipe qu'on a envie. Voilà. On n'a pas du tout envie de leur laisser, même pas pour l'honneur. Non, autant hier, j'ai trouvé à la fin les Polonais, bien sûr qu'on n'en avait pas envie de ce but-là, mais il y avait presque quelque chose, c'était pour l'honneur. C'était, voilà.
Ah, mais la condescendance.
Si, c'était beau. Non, c'est pas de la condescendance. J'ai trouvé, moi, ça m'a même fait plaisir pour eux qu'ils aient quand même ce but à la fin. Alors que les Anglais, mais même pas en rêve, quoi. Même pas un but. Non, mais pas question, même pas. Il serait même pas question de leur faire plaisir. Rally, pas d'inquiétude sur les Anglais, ils ont été bons quand même hier.
Ouais, ils ont été pas mal, ouais. Après le Sénégal, c'était très... Je rejoins Charles, ce qu'il disait ce matin, c'est friable quand même, c'était pas...
Ah, c'est une expression d'Emmanuel, je suis quand même obligé de rendre à César ce qui est à César. C'est Emmanuel Le Chypre qui a eu cette expression sur le Sénégal. D'accord. Et sa défense friable. Ouais, mais Rally, ça vous a pas inquiété plus que ça?
Non, franchement non, parce que voilà, les Anglais en défense c'est pas terrible, en défense. Nous on va pouvoir les bousculer devant. Ils ont Harry Kane, ils en ont deux latéraux qui sont pas mal, avec Foden, ça va être pas mal. Mais on est au-dessus, on est favori sur ce match-là. Et c'est eux qui vont nous craindre. Eux vont nous craindre.
Ils vont nous craindre.
Mais je suis d'accord avec Rally. Ce matin, il vaut mieux être français qu'anglais. Hein. Ils ont plus peur que nous.
Vous l'avez regardé où, tiens, Jean-Jacques? Vous l'avez regardé où, vous, le match?
Alors moi c'était très particulier, j'étais avec mon fils dans un pub à Lyon pendant 60 minutes, après c'était iPhone oreillette dans le métro lyonnais,
d'accord.
Et j'ai fini dans le TGV pour Nîmes, c'est super.
Ah ouais, d'accord, donc c'est un match qui vous a accompagné, heureusement qu'il y avait RMC quand même.
Ouais, mais alors, alors non, j'étais pas sur RMC, je suis regardé. Mais par contre, c'était très drôle parce que dans le métro, tout le monde avait son téléphone et puis deuxième but, au premier but de Mbappé, il y a eu un petit
c'est sympa. C'est sympa ça dans le métro, honnêtement. Rally, vous les regardez où vous?
Écoutez, nous on était chez les amis, en famille. D'ailleurs, je le salue à Casavodari. C'est super sympa. On a vraiment fait la fête. C'était vraiment sympa, franchement.
Et puis c'était très familial parce que le samedi après-midi, nous on était vraiment dimanche. En famille sur le dimanche. Le fait que ce soit un dimanche après-midi, c'était très familial. Là, le prochain coup, c'est soirée.
Mais attention.
Des horaires un peu plus classiques.
Attention, j'aimerais souligner à quel point c'est confortable, ces matchs à 20h, là, cette Coupe du Monde. Pour nous, les matchs inaliés, quel bonheur que ça se finisse pas à 23h30.
Ouais.
C'est-à-dire que même si en prolongation, on peut se permettre de rester, quoi.
Si on pouvait décider que désormais ce serait toujours à 20h, moi je trouve que c'est
la Ligue des Champions, la Ligue 1, tout ça.
Parfait. Il y a Yves qui nous a rejoint également. Bonjour Yves. Yves
Bonjour
Le Sartois.
Bonjour Pauline, ça faisait longtemps.
Ben ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. Comment ça va?
Ma petite Sartoise.
Je suis la petite Sartoise chérie. Yves, ça me fait très très chaud au cœur. Alors vous les regardez où le match? Vous en êtes où?
Moi je l'ai regardé, j'étais invité en Mayenne, dans de la famille, et on l'a tous regardé ensemble après le repas, et vraiment c'était un moment très convivial, même les épouses qui sont
les épouses ont regardé le match.
À la base c'est pas des footeuses, etc. Mais il y a eu des sourires, il y a eu des émotions, donc
beaucoup d'émotions, je trouve, beaucoup d'émotions et de l'émotion aussi dans la complicité entre Kylian Mbappé et Giroud. On a quand même envie de parler de ce couple, quoi, parce que c'est vrai que d'abord les images elles sont très belles. C'est vrai que c'est des images plutôt de couple. C'est une complicité extraordinaire. Non, mais c'est vrai, c'est une complicité extraordinaire. Moi j'ai trouvé très beau aussi la manière dont on sent bien l'un et l'autre sont fiers.
Moi, c'est le boulot de Deschamps qui est fascinant. C'est quand même le plus grand entraîneur de toute l'histoire du football.
Il n'y a pas
un palmarès équivalent. Si jamais il va au bout, il n'y aura pas un palmarès équivalent dans l'histoire du football.
C'est vrai. Et Griezmann, il ne faut pas oublier.
Et Griezmann, tu comptes, on en parle pas assez. Depuis le début, moi, je dis attention, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là.
Oui, mais il a changé de rôle. Il n'est plus en attaque comme avant, donc il brille moins. Désormais, il est au milieu de terrain, plus dans l'ombre, mais extrêmement
important. Il a gagné
important.
En humilité. Il y a quelque chose d'assez.
En tout cas, il se sacrifie pour le groupe, il défend beaucoup et ça, c'est très bon.
Et c'est convivial. Yves, vous disiez c'était convivial hier de le regarder, mais c'était convivial aussi sur le terrain. Je trouve qu'il y avait cette complicité sympathique. Vraiment, ça fait grand plaisir. Yves, cher Sartois, Rally de Montauban et Jean-Jacques Dugard, on a fait ensemble le match. On le poursuit tout à l'heure. Vous nous appelez au 32-16 et puis on sera avec Eric Dimeco. Ce sera à 7h40. Il est 6h49.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Il y aura le portrait du jour, Nicolas.
Elle s'appelle Melissa Highsmith, à 51 ans. Elle vient de retrouver ses parents alors qu'elle avait été enlevée lorsqu'elle était bébé.
Et puis vos histoires, Charles.
On sera dans un conflit de voisinage au sein d'une chambre d'hôpital en Allemagne. Je vous raconte tout ça dans un instant.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
6h52 sur RMC, je vous donne le programme de la suite de la matinale. Nouvelle attaque informatique dans un hôpital, cette fois dans les Yvelines. Comment font les médecins et qui sont les responsables de l'attaque? Les réponses du co-président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Versailles. Et ce sera dans 20 minutes pour tout nous expliquer. Et puis 7h40, est-ce que l'Angleterre vous fait peur? C'est l'adversaire des Bleus, samedi en quart de finale à la Coupe du Monde. On en parle tous ensemble au 32-16 et avec l'ami Eric Dimeco. Et puis à 8h30, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, il vient dévoiler son plan anti-trafic de tabac. Et puis surtout, on va revenir sur le quoi qu'il en coûte. Il nous avait expliqué qu'on était passé du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Et si le Covid revient, tiens, est-ce qu'on repassera aussi au quoi qu'il en coûte? Et puis ne manquez pas, à 7h15, on reviendra sur ce fait divers tragique, hein, des villageois qui ont littéralement lynché un cambrioleur.
RMC, Apolline Matin. Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui de Melissa Highsmith. C'est une Américaine qui vient de retrouver ses parents 51 ans après avoir été enlevée.
Oui, l'histoire se passe au Texas en 1971. La mère de Melissa était séparée de son mari. Elle venait de trouver du travail. Elle passe une petite annonce pour trouver une nounou. Le premier jour, elle charge sa voisine et amie de déposer sa fille de 21 mois chez la nourrice en lui demandant de ramener le bébé à 16h. Seulement voilà, le bébé ne sera jamais ramené et la nourrice jamais retrouvée. Les parents de Melissa sont naturellement désespérés et du coup ils se remettent ensemble et ils vont avoir par la suite 4 autres enfants qu'ils seront tous élevés avec l'idée qu'ils ont une grande sœur qui s'appelle Mélissa et qu'il ne faut pas abandonner l'espoir de la retrouver un jour. 50 ans se passent et rien ne bouge, jusqu'à ce que finalement, très récemment, le père de Mélissa envoie son ADN à un organisme qui lui répond « On a l'ADN de quelqu'un qui doit être votre petit-fils », autrement dit le fils de Mélissa. Et c'est par son intermédiaire que la famille a pu se retrouver. Il y a 10 jours seulement, Mélissa a revu ses parents 51 ans après. Sa mère vivait à seulement un quart d'heure de chez elle. À Noël, tout le monde devrait se retrouver pour la première fois, donc Mélissa avec son frère et ses trois sœurs.
Et qui était devenu l'enfant après l'enlèvement ?
Alors Mélissa a été enlevée par une femme qui disait être sa mère et à qui elle a demandé des comptes après avoir découvert la vérité ces derniers jours. Cette femme lui a dit qu'elle l'avait acheté quand elle était bébé, acheté dans la rue pour la somme de 500 dollars. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est au contraire cette femme qui l'avait enlevée. Ce que l'on sait, c'est que Mélissa a eu une triste vie. Elle a été violée par son beau-père, elle a fugué. Elle a eu trois enfants très rapprochés juste après ses 16 ans, dont elle n'a pas su s'occuper et qui lui ont été retirés. Par la suite, il lui est arrivé de se prostituer pour s'en sortir. Ses parents et ses frères et sœurs lui ont promis de l'aider à démarrer à 52 ans une nouvelle vie avec eux. Quant à celle qui s'est donc fait passer pendant 50 ans pour la mère de Mélissa, la police va maintenant sans doute s'intéresser à elle.
Terrible histoire, mais qui finit bien comme un conte de Noël. 6h54, les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Alors là, pour le coup, sans transition, vous nous emmenez en Allemagne avec cette patiente d'un hôpital qui coupe le respirateur de sa voisine.
Ouais, les faits se sont déroulés dans l'hôpital de Mannheim, au sud-ouest de l'Allemagne. Deux septuagénaires qui partagent la même chambre d'hôpital. L'une des deux sous assistance respiratoire, ce qui n'a pas du tout plu à sa colocataire. Parce qu'un respirateur, ça fait un peu de bruit, notamment la nuit. Un peu trop donc au goût de sa voisine de chambre qui a tout simplement décidé de débrancher soudainement l'appareil pour avoir un peu de silence. Heureusement, une infirmière passe par là, a immédiatement remis l'appareil en marche et prévenu la patiente que c'était vital pour sa voisine, ce respirateur. Ça ne l'a pas empêché de récidiver quelques heures plus tard, en pleine nuit. Et cette fois, les médecins ont dû quand même réanimer in extremis la femme de 79 ans qui aujourd'hui est totalement hors de danger. Mais sa voisine, la débrancheuse de respirateur, a été arrêtée dès sa sortie de l'hôpital pour tentative d'homicide. Interrogée par les policiers, elle a tout simplement expliqué qu'elle avait besoin de silence pour être tranquille dans sa chambre.
Bah oui, c'est compréhensible, voilà. Évidemment.
Quitte à débrancher sa voisine.
C'est malheureuse. Et puis une histoire bien plus altruiste, Charles, cette fois-ci en Suisse.
Avec cet éternel dilemme, que faites-vous si vous tombez dans la rue sur une enveloppe remplie de billets ? C'est l'histoire d'un vieil homme, un Suisse, donc dans le canton de Valais. Un matin, il se rend en voiture au distributeur pour retirer une belle somme d'argent, 20 000 francs suisses qu'il range dans une enveloppe avec d'autres papiers. Mais à peine rentré chez lui, il se rend compte qu'il a perdu son enveloppe. Figurez-vous qu'un couple a trouvé la fameuse enveloppe par terre sur le parking. À l'intérieur, 20 000 francs suisses en liquide et donc des papiers sur lesquels était inscrit l'adresse et le nom du monsieur. Ni une ni deux, il décide de se rendre chez lui pour lui remettre l'enveloppe, tout son contenu. Des bons Samaritains, on dirait là aussi un conte de Noël. D'ailleurs, pour les remercier, le vieil homme leur a quand même donné un petit billet de 500 francs suisses.
Oh, ça c'est déjà pas mal.
Ça ne peut arriver qu'en Suisse.
Déjà, trouver une enveloppe avec 20 000 francs, ça n'arrive qu'en
Suisse. Et avoir l'idée de la rendre.
Limite au Danemark.
Ça donne une idée du pouvoir d'achat en Suisse.
C'était les histoires de Charlie, les 6h56. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal de 7h à la une. On ira prendre des nouvelles des Bleus au lendemain de leur qualification. On sera en direct avec Jeanne Auré-Seyé.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.